Permettez-moi de lire le psaume 96, 96 avant la prière. Je demande que nous nous levions pour cela. Le psaume 96, donc 96 du verset 1. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous tous habitants de la terre. Chantez à l'Éternel, louez son nom. Annoncez jour après jour son salut. Racontez parmi les nations sa gloire. Parmi tous les peuples ses merveilles. Car l'Éternel est grand. Il est très haut à louer. Il est plus à craindre que tous les autres dieux. Car tous les dieux des nations sont des idoles de néant. Mais l'Éternel a créé les cieux. La majesté et la splendeur marchent devant lui. La puissance et la gloire remplissent son sanctuaire. Donnez à l'Éternel, descendant des peuples, donnez-lui la gloire et l'honneur. Donnez à l'Éternel la gloire de son nom. Faites des offrandes. Entrez dans ses parvis. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements saints. Tremblez devant lui, vous, tous les pays. Annoncez parmi les nations, l'Éternel est roi. Le monde sera inébranlable. Il ne chancellera pas. Il jugera les peuples selon la justice. Que les cieux se réjouissent, que la terre pousse des cris de joie, que la mer rugisse avec tout ce qui s'y trouve, que la campagne et ce qu'elle produit pousse des cris de joie. Alors tous les arbres de la forêt pousseront des cris de joie. Devant l'Éternel, quand il viendra pour juger la terre, il jugera le monde avec justice et les peuples avec sa fidélité. Prions. Seigneur notre Dieu, qui sommes-nous pour parler avec toi le saint et le véritable? Qui sommes-nous pour que tu nous parles? Dieu fidèle, nous avons trouvé grâce à tes yeux en raison de la rédemption qui a eu lieu à Golgotha. C'est là que l'agneau de Dieu a donné sa vie, a versé son sang pour le pardon de beaucoup. Et nous pouvons en faire partie par grâce. Seigneur fidèle, mon cœur est poussé à t'offrir l'adoration, la gloire de ton nom. Car tu as fait de grandes choses pour nous et pour toutes les extrémités de la terre. Seigneur bien-aimé, sois présent dans cette réunion. Nous te le demandons, accorde-nous la grâce de parler et la grâce d'écouter. Donne des paroles de révélation, que ton esprit règne sur nous, qui nous enseigne, qui nous conduise dans toute la vérité. Oui, Seigneur bien-aimé, nous ne sommes pas ici pour avoir un peu de divertissement religieux. Nous sommes réunis ici devant ta face, devant la fin de cette génération. Tu parles et tu agis et tu mènes à bien et à la perfection, à l'achèvement, ce que tu as commencé. Nous sommes ici devant ta sainte face. Pardonne toute faute. Enlève tout ce qui pourrait se mettre en nous et toi. Enlève tout au Seigneur. Purifie les pensées, les cœurs, les lèvres. Sanctifie-nous dans ta sainte présence et que ton sang saint, ton saint sang, ta parole sainte, ton Saint-Esprit soit efficace en cette heure, au milieu de nous, dans nos cœurs, dans nos vies. À toi, Dieu Tout-Puissant, nous remettons tout. Nous nous en remettons à toi, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes de tout cœur reconnaissants au Seigneur pour ce service divin et nous savons qu'il nous a déjà bénis tant de fois et qu'il nous bénira encore aujourd'hui. Nous souhaitons tout particulièrement la bienvenue à tous ceux qui sont ici peut-être pour la première fois dans le précieux nom du Seigneur. Ces dernières semaines, pendant le voyage, j'ai lu la Bible en anglais, en particulier les chapitres d'Estra et de Néhémie, et cela a beaucoup parlé de manière puissante à mon cœur. Je voudrais juste partager quelques pensées avec nous tous et lire quelques passages de l'Écriture à ce sujet. Je voudrais commencer par le chapitre 8 des Hébreux. Hébreux chapitre 8 est une parole qui m'a beaucoup parlé ces derniers temps et qui a probablement parlé à tous ceux qui souhaitent sincèrement se tenir et subsister, se tenir debout devant Dieu et subsister devant lui, qui ne sont pas seulement intéressés par un peu de religion, mais qui sont intéressés par la connaissance de Dieu et de son plan pour l'humanité et par le fait d'arriver à Dieu, donc d'arriver à Dieu auprès, chez lui dans la gloire au terme de leur pèlerinage, d'arriver chez Dieu. Hébreux chapitre 8, la deuxième partie du verset 5. Hébreux chapitre 8, la deuxième partie du verset 5. Prends bien garde, lui dit le Seigneur, de faire toutes choses, la deuxième partie du verset 5 d'Hébreux 8, d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Nous l'avons souvent dit, dans le royaume de Dieu, chacun ne peut pas faire ce qu'il veut. Le royaume de Dieu n'est pas le royaume d'un homme. Le royaume de Dieu est le royaume de Dieu. Et dans le royaume de Dieu, seul ce que Dieu a dit est valable. Les hommes n'ont rien à dire dans le royaume de Dieu, réellement. Et celui qui abuse du royaume de Dieu pour bâtir son propre empire, promouvoir sa propre cause et présenter son propre programme aura un jour à le payer cher. Le royaume de Dieu est placé sous la tutelle divine et que la volonté de Dieu s'y fasse comme au ciel, donc aussi sur la terre. Prends bien garde, lui dit le Seigneur, de faire toutes choses d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Permettez-moi de lire le chapitre 1 d'Estra. En effet, à cette époque, nous avons effectivement affaire au retour du peuple de Dieu, comme cela s'est produit à l'époque de Néhémie, d'Estra, de Zorobabel, que la captivité a atteint son terme et que le peuple de Dieu est revenu à Jérusalem, a reconstruit les murailles d'origine, a construit le temple d'origine, dans le temple, l'autel, et tout remis dans l'ordre initial, avec le moment du retour, une chose après l'autre a commencé à se produire. Pas de nouveaux murs, pas d'autres lieux, même pour le temple, pas de nouvel emplacement. Tout est resté à l'endroit ancien, tel que Dieu l'a voulu et fait construire par ses serviteurs, selon son désir et sa volonté. Ça, c'est notre leçon. Le retour du peuple de Dieu en ce temps dans lequel nous sommes, il s'agit de revenir à la parole, retour au commencement. Le dernier message doit être comme fut le premier. L'église à la fin doit être comme fut la première. Le premier fondement, le même fondement, la même prédication, tout doit être rétabli dans son état initial. C'est ce qu'implique et contient la notion de restitution, de restauration de toutes choses, restaurer au même endroit, le même fondement, les mêmes mesures, tout. Et il n'y a qu'un seul critère et une seule mesure, et elle est la parole de Dieu. C'est à cette mesure que tout doit être mesuré, à ce critère que tout doit être, que tous doivent être mesurés. Comme je l'ai dit, cela m'a tous et tout doit être mesuré. Comme je l'ai dit, cela m'a bouleversé, m'a touché de manière improbable et m'a rempli d'une grande joie intérieure de savoir que lorsque le temps de Dieu est arrivé, nous ne faisons pas ce que nous voulons, mais nous faisons ce que Dieu veut. Alors nous devenons une partie de la volonté de Dieu. Alors non seulement on construit, mais on construit selon le modèle et les mesures que Dieu nous a donné, selon le plan qu'il a laissé. Et ensuite, on construit au même endroit, sur les mêmes fondements. Si l'on remonte au commencement de la Bible, on s'aperçoit très vite que le mot Babel, qui signifie en fait « porte de Dieu », est soudain devenu Babylone, qui signifie confusion. Quand Dieu fait quelque chose, il ouvre une porte, un portail, pour tous ceux qui veulent entrer. Et puis il arrive que des hommes veuillent aussi faire quelque chose, et soudain, ce n'est plus la porte de Dieu, comme Jacob l'a dit autrefois, voici la porte de Dieu. Il a vu les anges descendre. Dieu descend et monter. Dieu était présent d'une porte de Dieu. Les hommes peuvent vite en faire une Babylone. Et nous devons tout simplement rester réels, même au sein de ce message, et le reconnaître ouvertement et le dire. Cela vient que du chemin de Dieu, de la vérité divine, de la parole, de la voix de Dieu, de la vérité de Dieu, de la parole que le Seigneur, de la porte que le Seigneur a ouverte, selon la parole de l'Écriture. Voici, je te donne devant toi une porte ouverte. Et quand il ouvre, personne ne peut fermer. Bien sûr, quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Mais si Dieu nous a donné le privilège d'arriver réellement en ces jours à l'entrée de la tente de la révélation, d'entendre la parole originale de Dieu, alors examinons si l'édifice auquel nous nous employons, si la construction à laquelle nous nous employons, la mesure correspond à l'ordonnance et à tout ce qui s'y rapporte, comme Dieu l'a dit dans sa parole. Permettez-moi de lire sur ce sujet Esdras 1. Je voudrais lire quelque chose, quelques passages bibliques à ce sujet pour nous donner la comparaison avec le Nouveau Testament. Esdras chapitre 1, verset 1. Esdras chapitre 1, verset 1. Esdras 1, verset 1. La première année du règne de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel qui était venue par la bouche de Jérémie, l'Éternel inspira l'esprit de Cyrus, roi de Perse, pour qu'il proclame dans tout son royaume le décret suivant et qu'il le fasse connaître par écrit. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre. Et c'est lui qui m'a ordonné de lui bâtir une maison à Jérusalem en Judée. C'est pourquoi, si quelqu'un d'entre vous fait partie de son peuple, que son Dieu soit avec lui, qu'il monte à Jérusalem en Judée et qu'il y bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui est le Dieu qui habite à Jérusalem. D'abord jusqu'ici, tout d'abord, une parole adressée au peuple de Dieu, pas à tous les autres, mais que celui qui appartient à son peuple monte, et que son Dieu soit avec lui. Ce n'est pas celui qui va à Rome ou ailleurs, mais celui qui appartient au peuple de Dieu, qu'il revienne au point de départ. L'enseignement devait partir de Jérusalem et la parole de la montagne de Sion. Et c'est ce qui s'est passé. Et c'est ce qui se passera encore une fois à l'avenir. Le parallèle est très simple. Ce qui me frappe particulièrement ici, c'est la magnifique expression « afin que s'accomplisse la parole du Seigneur prononcée par la bouche de Jérémie ». Dieu a des prophètes. Et il a annoncé des choses, des jugements, etc. Je voudrais lire ce qui vient d'être dit dans le prophète Jérémie. Jérémie, chapitre 25, c'est écrit ici au verset 12. Jérémie 25, verset 12. Mais quand les 70 ans seront écoulés, les 70 ans, j'exécuterai aussi contre le roi de Babylone et contre ce peuple-là, dit l'Éternel, le jugement pour leur faute contre le pays des Chaldiens, etc. Lorsque les 70 ans annoncés seraient écoulés, les 70 ans annoncés seraient écoulés, Dieu aurait voulu organiser le jugement et faire revenir son peuple. Je lis dans le prophète Daniel, au chapitre 9, au verset 2. Chapitre 9, verset 2. La première année de son règne, moi, Daniel, je fixais mon attention dans les Écritures sur le nombre des années au sujet desquelles la parole de l'Éternel avait été adressée autrefois à Jérémie, le prophète, disant qu'un temps de 70 ans, de 70 ans, s'écoulerait sur les ruines de Jérusalem. Je tournais donc ma face vers l'Éternel Dieu pour le chercher avec des prières et des supplications dans le jeûne et dans le sac et la cendre. L'Esprit de Dieu dans les prophètes, dans le prophète, commença à agir vers le temps de l'accomplissement des prophéties que Dieu avait données par l'intermédiaire de prophètes qui vivaient déjà avant eux et qui annonçait ce qui allait venir et ce qui allait arriver. Nous croyons que Dieu continue d'agir de la même manière, toujours selon sa sainte parole. Et nous avons à sonder les Écritures pour savoir ce que Dieu a promis pour ce temps. Je voudrais lire le verset 62 du chapitre 2 d'Esdras. Il y a en effet ici un certain nombre de caractéristiques auxquelles nous devons prêter attention et qui se rapportent déjà à notre retour et à la restauration, à la restitution de toutes choses. Esdras chapitre 2, verset 22 et verset 62 et 63. Esdras 2, 62, 63. Ceux-ci avaient bien cherché leur acte de naissance, mais on ne l'avait pas trouvé. En conséquence, ils furent exclus du sacerdoce comme étant impurs. Et le gouverneur leur avait déclaré qu'ils ne pourraient pas manger du très saint jusqu'à ce qu'il y ait de nouveau un sacrificateur pour consulter les oracles de l'Urim et du Thummim. Je ne sais pas si nous avons déjà parlé de cela en ce lieu. Nous pouvons le lire dans quelques passages bibliques, spécialement aussi dans Exode 28, verset 30, Deutéronome 33, verset 8, dans d'autres endroits. Dans le pectoral d'Aaron, les 12 pierres correspondaient aux 12 tribus d'Israël. Et à chaque fois que l'on devait décider si la chose était authentique ou non, si elle venait de Dieu ou non, la personne concernée devait exprimer raconter son songe, sa révélation, quelle qu'elle soit, devant cet homme de Dieu qui portait le pectoral sur sa poitrine. Si la lumière s'allumait, s'allumait de manière surnaturelle, alors la chose était vraie, alors elle était authentique, alors elle venait de Dieu. Mais si la lumière de ces 12 pierres ne brillait pas dans le buste, si elle restait sombre, alors Dieu, ça veut dire que Dieu se taisait. Dieu n'a rien dit. Alors la chose présentée n'était pas de Dieu. Et Dieu ne la confirmait pas. Qui parmi vous s'y connaît? Qui a lu l'Ancien Testament en profondeur pour savoir de quoi il s'agit? J'ai lu spécialement ce qui concerne aussi ce point, car frère Branham a parlé tout particulièrement de ce sujet dans quelques prédications sur les épîtres aux Hébreux. Et il a dit littéralement, l'enseignement des 12 apôtres est comme le pectoral dans l'Ancien Testament, ce que les 12 tribus d'Israël devaient représenter. Et si cela ne brille pas, parce que les 12 apôtres de l'agneau ont annoncé et enseigné, alors nous pouvons l'oublier. Il est devenu très sérieux dans cet enseignement et a simplement mis en garde contre le fait de croire que si une chose n'est pas biblique, alors elle reste dans l'obscurité. Oui, il a mis en garde en disant de croire que si une chose n'est pas biblique, alors elle reste dans l'obscurité. Alors, il n'y a pas de révélation, pas d'illumination, pas de lumière. Chaque fois que la lumière vient, elle vient par la parole. La chose doit être révélée par la parole. Ta parole est la lumière de mon pied. Et c'est pourquoi j'ai déjà eu à subir bien des choses parce que j'ai demandé directement à des frères où est-ce que cela est écrit. Et oui, alors ils disent le prophète l'a dit. On peut mal comprendre ce qu'a dit le plus grand des prophètes. Et si on ne le reprend pas dans l'écriture, ce qu'il a dit pour laisser Dieu le dire. Déjà, ce qui a été dit, Dieu ne commence pas à parler aujourd'hui ou hier. Ce n'est pas hier que Dieu a parlé ou bien aujourd'hui. Dieu a déjà dit tout ce qu'il voulait dire. Et il a laissé écrire. Mais c'était resté caché. Cela n'avait pas été révélé parce que le temps n'était pas encore venu pour cela. Mais il est même écrit dans Apocalypse 22, au dernier chapitre de la Bible. Celui qui ajoutera aux paroles de la prophétie de ce livre quelque chose, se verra infliger les fléaux dont il est question dans ce livre. Il y a vraiment des gens qui ajoutent des choses avec beaucoup d'enthousiasme au témoignage des Écritures. Et Dieu ne peut pas le tolérer. Ce n'est pas possible. Dieu est un Dieu saint. Il exige le respect devant lui et sa sainte parole. On ne peut pas lire la Bible comme un roman ou un journal quotidien. Il faut la lire avec un saint respect. Il s'agissait donc ici de la présence de personnes qui n'avaient pas d'acte de naissance pour pouvoir prouver qu'ils appartenaient à la famille particulière des sacrificateurs. Des sacrificateurs, particulièrement ici. Et cela m'a parlé. L'évangile de Jean, au chapitre 1, le passage bien connu, non pas par la volonté d'un homme, mais né de Dieu, un acte de naissance vraiment divin, né de la semence incorruptible de la parole par le Saint-Esprit, né pour être lié à Dieu, parce que Dieu s'est révélé en Christ, s'était révélé en Christ et nous a inclus dans cette lignée, cette race divine. Ces gens devaient attendre pour que de nouveau l'urine et le toumim reviennent. J'espère que je trouverai le passage où il est écrit concernant la lumière et la justice. Il faudrait peut-être que ça devrait être dans Exode 28, je ne l'ai pas spécialement cherché. Mais c'est écrit dans tous les cas, et je vous demande de lire un peu avec moi. Pas besoin de le faire maintenant, vous pouvez le faire chez vous. Je veux voir dans Exode 28, justement, car il devrait alors être écrit que Dieu a donné la réponse par la lumière et la justice. Oui, Exode 28, verset 30. Il y a un frère qui l'a crié dans la salle. Oui. Exode 28, 30. Et tu mettras dans le pectoral de l'oracle les saints sorts sacrés d'Urim et de Thummim afin qu'ils soient sur le cœur d'Aaron chaque fois qu'il se présentera devant l'Éternel. Et Aaron portera ainsi sur son cœur l'oracle rendu aux Israélites en permanence devant l'Éternel. Je crois qu'il y a le passage de Saül aussi selon lequel Dieu ne lui a répondu ni par la lumière et la justice, ni par un songe et ainsi de suite, mais par ce pectoral, par cet oracle du pectoral ordonné par Dieu, la justice, le droit de la cause. Donc, cela devait être révélé par la lumière que la cause, que la chose est juste. Si pas de lumière, pas. Donc, ça veut dire que la chose n'est pas juste. Si elle est juste, alors il y a de la lumière. Et il en va de même pour la prédication véridique. C'est pourquoi Paul peut écrire aux Thessaloniciens : vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne bien. Alors, ne soyez pas dans les ténèbres pour ne pas que ce jour vous surprenne. Vous voyez, Dieu ramène son peuple. À l'époque, lorsque les Israélites sont revenus de captivité, tout est revenu à son état initial. Les murs de la ville, le temple, l'autel, la lumière et la justice, l'ordre divin a été rétabli pour le peuple de Dieu sur un sol et dans un lieu saint. Je crois que la même chose se produit dans ces jours. Pas un ordre nouveau, pas un nouvel ordre, pas un ordre différent, mais l'ordre divin, saint, sur un sol saint, sur les fondations originales qui ont été posées, dont Paul dit, nul ne peut poser un autre fondement que celui qui a déjà été posé. Et ce fondement, c'est Jésus-Christ, notre Seigneur. Partout où des personnes sont éloignées de la parole et parfois même sous une objection très pieuse. L'objection la plus pieuse que j'ai entendue est la suivante. Personne ne comprend la Bible. Il n'y avait qu'une seule personne qui la comprenait. Et maintenant, nous n'avons plus besoin de la lire. Il nous suffit de lire les prédications de cet homme. Vous savez que je respire profondément en ce moment. Vous l'avez certainement même entendu et remarqué. Rien n'est plus éloigné de la vérité que cela, sur terre. On pourrait laisser la première partie de la phrase. On pourrait laisser comme étant vrai. Il n'y a vraiment pas eu de prophète à qui la parole soit parvenue par révélation. Et remercions Dieu du fond du cœur d'avoir eu un homme à qui parler, comme dans la génération à qui la parole est parvenue par révélation, comme dans la génération. Mais la deuxième partie, qu'elle soit rejetée pour l'éternité. La deuxième partie de cette phrase, de ces gens-là. C'est seulement depuis le ministère de Frère Branham que j'ai vraiment ouvert ma Bible et que je l'ai bien lu. Je l'ai lu avec des yeux qui voient. Je l'ai lu avec une compréhension intérieure. Je l'ai lu avec l'accès à la révélation divine. Et c'est de cela qu'il s'agit. On peut très vite être trompé de manière pieuse. Bien sûr, vous savez que je reçois des lettres de toutes sortes. Certaines ne sont pas très agréables. Lorsque j'ai dit ou écrit quelque part que nous devions classer toutes les choses dans les Saintes Écritures, ce cher frère m'a écrit, nous n'avons besoin de personne pour classer les choses dans les Saintes Écritures, pour nous classer les choses dans les Saintes Écritures encore une fois, qui prennent les choses dans les Saintes Écritures et les classer et les ordonner dans leur contexte et leur place. Mais c'est justement notre tâche de bien dispenser la parole de la vérité, de remettre les choses à leur place sur le fondement et le sol original. Et je suis donc originel. Et je suis très reconnaissant à Dieu que, aussi loin que je me souvienne, j'ai été intimement lié à sa parole. Et je suis heureux de me répéter ici à ce sujet depuis que j'ai vraiment compris que Dieu avait envoyé frère Branham comme un homme de Dieu, comme un prophète. J'ai commencé à relire la Bible nouvellement, à la sonder de nouveau. Et j'ai trouvé que les choses étaient vraies. Il est écrit dans les Actes des Apôtres que ceux qui étaient à Béré étaient plus sages parce qu'ils sondaient les Écritures pour savoir si cela se passait, si cela était ainsi exact. Cela se passait ainsi. Ils ne se sont pas contentés d'écouter les prédications. Ils ont cherché, ils ont acquis une certitude devant la face de Dieu par sa parole pour pouvoir s'y reposer intérieurement. Il ne suffit pas qu'une prédication soit faite. Nous ne pouvons nous reposer en Dieu que si nous avons été satisfaits intérieurement devant Dieu par les Écritures et que la chose est conforme à sa parole. C'est alors seulement que nous reposons en Dieu. Avant cela, nous nous reposons peut-être dans un malentendu, une incompréhension. C'est-à-dire que nous avions cru devoir déclarer comme étant quelque chose que nous avons cru devoir déclarer comme une révélation. Mais il n'y a pas de malentendu dans les Saintes Écritures. Ce qui est vrai pour Paul l'est aussi pour frère Branham. Pierre l'a mentionné à l'époque. Et dans ses lettres, dans les lettres de Paul, on trouve des choses difficiles à comprendre, qui ont fait que ceux qui sont mal affermis tordent le sens. Mais depuis que nous avons reçu ce message divin, nous ne sommes plus restés ignorants. Nous connaissons les promesses que Dieu a faites. Nous avons les jours, nous avons reconnu le jour dans lequel nous vivons. Nous avons reconnu le message autour de nous avons reconnu le message de le messager. Mais s'il vous plaît, pas pour en faire un culte d'un homme. Je devrais peut-être le dire ici sans détour. Si certaines personnes témoignent que le Fils de l'homme du grand, que le Fils de l'homme de Dieu, du grand Dieu, se laisse saluer par « Bonjour Seigneur », cela va beaucoup trop loin. C'est de l'idolâtrie et rien d'autre. Dieu m'a désigné pour prendre position en faveur de la vérité. Et s'il me rappelle d'abord à la maison, ma voix sera encore entendue jusqu'au jour du retour de Jésus-Christ. S'il me rappelle avant cela à la maison. Dieu ne nous a pas donné l'esprit d'idolâtrie. Vous savez qu'il y a eu des gens du vivant de Frère Branham qui se sont prosternés devant lui, qui l'ont adoré comme Jésus-Christ, qui ont été baptisés au nom de William Branham, etc. Tout le monde religieux est au courant de ces choses. Et le même culte se poursuit. Non, avant je me demandais parfois pourquoi ces frères étaient si opposés à moi. Aujourd'hui, je sais qu'en tant que frère Franck, je n'ai pas touché un seul cheveu de ces gens. C'est à cause de la véracité, à cause de la parole pour laquelle je vis, pour laquelle je meurs. Et c'est de cela qu'il s'agit. Et je le répète à la fin, toutes les interprétations seront perdues. Elles ne tiendront pas. Elles cesseront. Mais la parole de Dieu demeure pour l'éternité. Et tous ceux qui ont reçu la parole demeurent avec la parole pour l'éternité. C'est ainsi. C'est la substance divine en nous, comme il a été dit dans le psaume 82 et dans Jean, chapitre 10, lorsque Dieu a nommé alors que Dieu les a appelés des dieux auxquels ceux à qui la parole avait été adressée. Et qui étaient-ils? C'étaient les prophètes. Et qu'est-ce qui était divin autour en eux, donc autour d'eux ou en eux? La parole sainte, la substance divine qu'ils ont reçue de Dieu a engendré la vie divine en eux. Il en va de même pour nous, rien de plus. Dieu n'a qu'un seul plan. Celui-ci commence dès le commencement du temps et se termine lorsque le temps débouche dans l'éternité. Aboutit dans l'éternité. Dieu n'a pas deux ou trois plans. Il n'a qu'un seul plan pour son peuple. Et vous verrez que tous les hommes de Dieu étaient d'accord avec tous les hommes de Dieu qui vivaient avant eux, étaient en accord. Seulement les faux prophètes ont dit autre chose. Les vrais prophètes ont toujours parlé le même langage de Dieu. Il n'y a pas de contradiction, ni dans l'Ancien, ni dans le Nouveau Testament. Permettez-moi maintenant de jeter un pont vers ce que Paul écrit, de faire un pont vers ce que Paul écrit dans Corinthiens, chapitre 3, du verset 10, il est écrit ici. Selon la grâce que Dieu m'a accordée, j'ai posé le fondement. Comme un architecte habile, un autre bâtit dessus, mais que chacun regarde comme il bâtit ensuite le verset 12. Mais si quelqu'un bâtit encore sur ce bon fondement, avec de l'or, de l'argent et des pierres précieuses, avec du bois et du foin et de la paille, le travail de chacun sera manifesté le jour du jugement, le montrera, car il se révèle par le feu, et le travail de chacun sera éprouvé par le feu même. Ce qui m'intéressait particulièrement, c'est que personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a déjà été posé. Et ce fondement divin a été déblayé à cette époque. Tout ce qui s'était effondré, tout ce qui restait de débris et de cendres a été déblayé. Le même fondement, la même fondation, tout au même endroit, de la même manière. Croyez-vous cela? Avec les mêmes mesures. Je le crois de tout mon cœur. Non pas à un nouvel endroit, mais le même point, la même parole, le même enseignement, tout comme au commencement. Il doit en être de même à la fin. Dans l'épître aux Hébreux, il y a aussi une parole tout à fait glorieuse afin que nous sachions tout de suite que Dieu ne parle pas à côté de nous et n'agit pas à côté de nous, mais que nous sommes tous impliqués. C'est autrefois que fut construite la maison de Dieu, le temple du Seigneur à Jérusalem. Et dans Hébreux chapitre 3, nous lisons le verset 4 du verset 4. Hébreux 3, verset 4. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toutes choses, c'est Dieu. Quant à Moïse, bien qu'il ait été fidèle dans toute sa maison, en tant que serviteur pour témoigner de ce qui devait être annoncé comme révélation. Mais Christ l'est comme fils sur sa propre maison. Et sa maison, c'est nous, pourvu que nous restions inébranlablement attachés jusqu'à la fin à la joyeuse assurance et à l'espérance dont nous nous glorifions. Ce n'est donc pas le bon commencement qui compte, le bon commencement, mais la bonne fin. C'est la maison de Dieu qui nous est présentée ici, le temple de Dieu dans le Nouveau Testament. Vous êtes le temple de Dieu. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes rassemblés comme des pierres de construction vivante, de l'édifice vivante, comme l'explique Pierre, pour former un édifice spirituel. Pierre, qui est Christ, la pierre angulaire et la clé de voûte, donc la dernière pierre, l'alpha et l'oméga. Mais nous sommes insérés dans cette construction divine, dans cet édifice divin. Et c'est pourquoi il est tout simplement nécessaire que nous soyons ajustés. Qui connaît l'histoire de la construction du temple à l'époque de Salomon? Savez-vous que lors de l'assemblage de toutes les pierres, on n'a pas entendu un seul coup de marteau? Que toutes les pierres ont été ajustées au préalable. Le jour de l'assemblage, on n'entendait plus aucun bruit. Tout était parfaitement ajusté. Plus de scie, plus de marteau, plus de burin. Plus de traitement, tout correspondait. Et pourquoi cela convenait-il? Parce que tout avait été préparé selon l'ordre divin. Si nous devons être ajustés, alors s'il vous plaît, faites-le sous la supervision divine, selon le modèle divin. Et alors il ne s'agit plus d'un homme. Nous avons affaire à Dieu lui-même. Qui est prêt à revenir, tous ceux, et à se laisser ajuster, tous ceux qui faisaient partie de son peuple devaient se lever et revenir à Jérusalem. Le temps de la captivité était terminé. Je pense maintenant au livre de notre réformateur Martin Luther, intitulé « De la captivité babylonienne ». Il a écrit à la lumière de son époque comme Calvin, Zwingli et Schwingert et bien d'autres. Mais maintenant, c'est vraiment le moment d'être sorti de toutes sortes de captivités babyloniennes, de revenir sur le saint sol. Et ce qui m'irrite le plus dans l'esprit, c'est que de nouvelles prisons babyloniennes soient établies au sein du message, que des personnes soient à nouveau asservies et que l'Église soit déchirée et divisée si près du retour du Seigneur. Que cela cesse. Le Seigneur réclame son peuple et dit par l'intermédiaire du prophète Ézéchiel, « Je me prendrai moi-même mon troupeau. » Et nous avons la promesse dans la lettre aux Corinthiens, que si nous entendons l'appel et sortons, qu'il sera alors notre Dieu. 2 Corinthiens, chapitre 6, du verset 16. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Qui est le temple de Dieu? Donc, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. De Corinthiens 6, verset 16. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Dieu a des intentions. Il ne veut pas seulement passer le temps. C'est peut-être ce que nous faisons parfois. Mais lui, il a un plan. Et ce plan est valable pour l'éternité. Si maintenant, à la fin des jours, il amène la parole des prophètes et des apôtres à son accomplissement et rétablit son Église dans son état initial, nous devons veiller alors à ce que cela soit vraiment à 100% identique maintenant à l'état de l'Église du commencement. Le même fondement, la même prédication, l'enseignement et pratique. Tout doit être identique. Ce n'est qu'alors que nous pourrons être le temple de Dieu. À ce temple, ce n'est pas nous qui le construisons, ce n'est pas nous qui le bâtissons. C'est le Seigneur qui le bâtit. Mais nous devons nous laisser intégrer dans cette construction et ajuster et intégrer. Cela n'est pas possible tant que nous sommes tiraillés, divisés. Mais seulement lorsque nous nous remettons entre les mains de ce grand architecte et maître d'œuvre et que nous disons, Seigneur, me voici, ajoute-moi. Ajoute-moi à cet édifice, à cette construction. En effet, nous attendons tous que Dieu marche et agisse au milieu de nous, n'est-ce pas? Oui, mais quand cela arrivera-t-il? Quand les pierres sont encore éparpillées, divisées, et quand tout est encore en désordre? Ou quand l'édifice divin sera majestueusement assemblé dans l'amour divin, chacun à sa place, chacun pour sa tâche, chaque chose à sa place, sur le terrain et le fondement originel. Personne ne peut poser un autre fondement. Permettez-moi de le dire clairement, frère Branham n'a pas posé non plus un nouveau fondement. Il a déblayé l'ancien terrain. Il nous a montré à quoi il ressemblait. Nous avons pu voir les dimensions, les mesures et tout par grâce. Son message était le suivant. Revenir à la Bible. La parole, la semence originale de Dieu. Toutes les choses que Dieu fait, il les fait selon sa parole. Et toutes les choses que les serviteurs de Dieu doivent faire dans le royaume de Dieu, ont à faire, ils les font selon la parole de Dieu. Nous croyons que le ministère de Frère Branham, excusez le fait que je mentionne son nom plusieurs fois aujourd'hui, mais Dieu l'a utilisé plusieurs fois et j'en suis très reconnaissant pour cela. De même, nous devons garder l'équilibre pour ne pas rendre hommage à un vase, mais au potier qui façonne le vase. Il a le pouvoir de créer des vases pour l'honneur et pour le déshonneur. S'il a réussi à créer un vase magnifique en son honneur, qu'il en soit remercié, lui le potier. Je ne vais pas tout de même me présenter devant un vase et remercier le vase. Le vase ne comprendrait rien du tout, mais je peux remercier le potier qui a su si bien façonner et si bien utiliser ce vase. Remercions notre Dieu pour tous les prophètes, pour tous les apôtres, pour tout. Pour tous, pour les hommes de Dieu qui ont annoncé la lumière et la justice au peuple de Dieu, afin de l'arracher aux ténèbres et l'incrédulité et de le placer sous la garde de Dieu, sous la direction, la conduite du Saint-Esprit. Le temple a été reconstruit avec de grandes difficultés, menaces, interruptions. Ennemis, demi-frères, Il est intéressant de lire toute l'histoire d'Esdras et Néhémie. Mais il est ensuite écrit, « La main de l'Éternel, leur Dieu, fut avec eux. » Et ils achevèrent la construction. La main de notre Dieu sera avec nous. Malgré certains obstacles, malgré certaines difficultés, nous ne nous tenons pas à notre propre cause. Nous ne nous tenons pas dans notre propre cause, dans notre propre chose, dans notre propre œuvre, pas en notre propre nom. Nous nous tenons à l'œuvre de Dieu qui arrive maintenant à son achèvement. Ici, comme nous venons de le lire, il est dit dans 2 Corinthiens 6, au verset 16, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles et l'idolâtrie? Non, il n'y a aucun rapport. Dieu ne donne pas sa gloire à un autre. Il ne donne sa gloire à personne d'autre. Lui seul est digne de recevoir la louange et la gloire, l'honneur et l'adoration pour toujours. Maintenant, c'est à nous de savoir si nous sommes prêts intérieurement à laisser Dieu nous édifier sur ce fondement saint de la foi. Je lis à ce sujet un passage de la lettre de Jude, verset 20, le 20e verset, lettre de Jude, 20e verset. Mais vous, bien-aimés, vous édifiant sur le fondement très saint de votre foi, priez dans l'Esprit Saint. Et ainsi gardez-vous dans l'amour de Dieu, plein d'une attente confiante de la miséricorde de notre Dieu, de notre Seigneur, pardon, Jésus-Christ, pour la vie éternelle. Édifiez-vous. Sur quoi? Sur le fondement très saint de votre foi. Paul a dit que le fondement a été posé, qu'il n'était pas possible d'en poser un autre. Et pendant ce temps, beaucoup de choses ont été brisées. On a construit, on a apporté du bois, du foin, de la paille, du chaume. On a érigé de grandes choses et Dieu n'était pas dans la chose. Et comme Paul l'a écrit aux Corinthiens, le jour du jugement se manifestera dans le feu. Et le feu va déjà éprouver la chose. Examinez la chose. Jeter du foin au feu, c'est très vite. C'est très rapide. Hein? Jeter du chaume au feu, il y aura une belle flamme et un peu de fumée. Tout après tout. Du bois un peu plus longtemps, mais même là, c'est bientôt fini. Quelle est la promesse que Dieu nous a faite dans le dernier âge de l'Église, à savoir dans l'épître à Laodicée? Je te conseille d'acheter de moi de l'or purifié par le feu et de te revêtir de vêtements blancs afin que la honte de ta nudité ne soit pas manifestée. Dieu veut nous ramener au commencement, à l'origine, pas à ce qui s'est passé après. La fin et le commencement doivent être exactement les mêmes. Je n'y renonce pas, j'y crois. De même que dans l'Ancien Testament, le temple avait été détruit. Le temple qui avait été détruit a été reconstruit lorsque le temps fixé pour cela est arrivé. Et il est écrit que la gloire du deuxième temple sera plus grande que celle du premier. Ainsi, dans l'église du Dieu vivant, qui est sa maison, son temple, Dieu doit encore une fois y habiter, marcher et agir parmi nous. Il ne peut en être autrement. Dans le ministère prophétique, le Seigneur ne nous a donné qu'un avant-goût afin que nous sachions ce qu'il a préparé pour nous. Pouvez-vous le croire? Bien-aimés, il est tout simplement nécessaire que nous honorions Dieu par la foi. Par l'incrédulité, nous lions les mains de Dieu et ne réalisons pas que nous nous trouvons dans notre propre prison. Même les pensées peuvent devenir une prison pour nous. Les circonstances, toutes sortes de choses peuvent nous être fatales ou même devenir une prison. mais ceux qui espèrent et s'attendent à l'Éternel reçoivent de nouvelles forces. Ils s'élèvent comme des aigles. Ils courent et ne se lassent pas. Nous croyons, comme l'Écriture l'a dit, « Vous, mon peuple, sortez, séparez-vous, ne touchez à rien d'impur. Et vous serez mes fils et mes filles, et je serai votre Dieu. » C'est le temps de l'appel à sortir, le temps de la préparation. Et le Seigneur connaît déjà le moment où tout sera harmonieusement réunis, joints, puissent les réunions que nous avons, la méditation de la parole, l'enseignement, que toutes ces prédications servent à nous rendre aptes à cette construction divine, finale, afin que le Seigneur puisse vraiment habiter et marcher encore une fois sur cette terre parmi son peuple, afin qu'il puisse encore une fois confirmer sa parole et bénir son peuple, afin que la différence puisse se manifester entre ceux qui le croient et le servent et ceux qui ne le font pas. Dans le prophète Malachie, il y a effectivement ce terme. Vous verrez alors la différence entre celui qui me sert et celui qui ne me sert pas. Il n'est pas seulement temps d'entendre, d'écouter la parole de Dieu et de croire, mais il est temps de l'obéir, d'obéir à la parole, de servir le Seigneur et de devenir des gens qui mettent la parole de Dieu en pratique et ne se bornent pas à l'écouter simplement. De nous laisser simplement tomber entre les mains du Seigneur pour qu'il puisse nous rendre conformes, nous ajuster, revenir encore une fois au commencement avec la lumière et la justice, le Urim et Thummim. Tout ce qui vient de Dieu est en effet révélé par lui. C'est de la lumière. Et puis, en ce qui nous concerne, il est écrit, lève-toi, réveille-toi et lève-toi, toi qui dors. Lève-toi, ainsi le Christ t'éclairera. Il est aussi écrit, il y aura de la lumière au temps du soir. Dieu nous a donné la lumière. Il nous a montré à nouveau le droit, la justice divine, le droit divin, le jugement divin, les vérités bibliques placées sur le chandelier. Il nous a effectivement ramenés au fondement originel, à l'enseignement des apôtres. C'est là que j'aimerais me référer à Frère Branham. Dans les mêmes sermons sur l'Épître aux Hébreux, il a parlé d'Apocalypse 12, où il est question de la femme qui porte une couronne de 12 étoiles et une couronne de 12 étoiles sur la tête. Et ensuite, il dit avec une grande certitude que l'Église du Nouveau Testament est couronnée de l'enseignement des 12 apôtres. Oui, cela en fait tout simplement partie. Dieu ne change pas le fondement, ni l'enseignement. Il ne change rien du tout. Avec Dieu, tout reste comme avant. Malachie 3, verset 6 probablement. Je suis Dieu, je ne change pas. Hébreux 13, verset 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et souvenez-vous que c'est précisément de l'Église couronnée par l'enseignement des 12 apôtres que naîtra le Fils mâle, qui est la troupe des vainqueurs. Prenons donc le... Saisissons donc la chose et disons, Seigneur, nous avons entendu ta parole. Il n'est pas question pour nous de faire des compromis. Nous voulons émerger comme une véritable semence de Dieu pour faire partie de la troupe des vainqueurs qui sera enlevée ensuite vers le trône de Dieu pour célébrer d'abord le festin des noces de l'agneau, fêter d'abord le festin des noces de l'agneau, puis pour régner avec Christ pendant 1000 ans et ensuite être avec lui pour l'éternité. Il y a une foule de prémices, une foule de vainqueurs qui est destinée à croire en Dieu, à faire confiance à Dieu, à le prendre par sa parole et à être rendu et à être ajusté par lui afin d'être là comme temple de Dieu. J'aimerais également insister sur ce point. Ne vous regardez pas, ne me regardez pas, ne regardez pas à vous-même ou bien à moi, ne regardez pas non plus aux autres, regardez seulement au Seigneur. Il est vraiment le potier. Si une chose, vous connaissez l'histoire du prophète Jérémie, le potier n'avait pas réussi à faire un vase. Et le prophète regarde comment est-ce que le potier fait tomber le vase en miettes. Si toi et moi faisons tomber un vase, nous ne pouvons pas en faire un autre de ce vase tombé. De ce vase tombé là, nous ne pouvons pas en faire un autre. Il ne reste alors que des morceaux et rien d'autre. Mais le Seigneur, le vrai potier, peut faire une nouvelle pâte avec les morceaux et former un nouveau récipient, un nouveau vase. Ça, c'est notre Seigneur. Ça, c'est notre Dieu. Si nous avons un peu échoué ici et là, alors faisons confiance, n'est-ce pas, à notre Seigneur pour qu'il puisse faire de nous une nouvelle masse glorieuse, pâte glorieuse, et qui finalement deviennent des vases à sa gloire, sous sa parole, sous la puissance de son esprit. Des vases qui puissent être manifestés, être remplis de contenu divin et être là pour la gloire de son nom. Si nous n'avions pas la foi, nous devrions peut-être dire, oui, qu'est-ce que je suis? Ne vous faites pas de soucis. Qui suis-je? Ne vous faites pas de soucis. Le Seigneur se soucie de nous. Il veut être lui-même. Il veut être lui-même, celui qui mène à bien son œuvre avec son Église et qui l'achève. Et nous avons effectivement la grâce et le privilège de faire partie à la fin de ces jours de la troupe qui sera appelée à... De la troupe qui est revenue après avoir été appelée à sortir. Vous tous qui appartenez à son peuple, retournez avec vous. Soyez le Dieu d'Abraham. Les autres peuples restèrent là où ils étaient. Le peuple de Dieu est revenu. Toutes les églises et communautés, associations, ecclésiastiques ou bien quelles qu'elles soient, resteront là où elles sont. Mais le peuple de Dieu, à cette heure, écoutera la voix de Dieu, reviendra, pas à Rome, mais à Jérusalem. Là où la fondation a été posée. Et ils vont construire comme les apôtres ont construit et se laisser édifier avec eux sur le fondement très saint de la foi, de la même foi. Est-ce là votre désir? Et avez-vous le désir vraiment de devenir un temple de Dieu? Être mis à un temple de Dieu qui fonctionne. Un temple de Dieu en fonction pour qu'une initiation de Dieu puisse avoir lieu dans son temple. Pour que Dieu puisse inaugurer son temple et venir habiter. Vous savez que lorsque le temple a été inauguré à l'époque de Salomon, la gloire de Dieu est descendue, si bien que les sacrificateurs ne pouvaient même pas entrer pour exercer leur service, car la gloire de Dieu remplissait le temple. Ils se prosternèrent sur le pavé devant le temple, tant la gloire de Dieu était grande. Qu'en est-il du second, lorsque le temple de Jérusalem a été inauguré? Je parle maintenant de l'église du Nouveau Testament. Le jour de la Pentecôte, la gloire de Dieu descendit alors et remplit toute la maison où il se trouvait. C'était une gloire de Dieu remplie de vie et de l'Esprit de Dieu, des langues de feu, l'onction du Saint-Esprit. Tout était là. Dieu a joint les premières pierres de ce magnifique édifice. Après les avoir ajustées, s'il est maintenant écrit, nous avons souvent lu ces passages que le Seigneur attend dans le ciel jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, comme il a fait dire par la bouche de ses serviteurs et de ses prophètes. Nous pouvons le lire dans les Actes des Apôtres, au chapitre 3, versets 19 à 21, où il est écrit que le Seigneur attend le moment où tout sera remis en place, où tout sera restauré, où tout sera remis en place. Et nous témoignons que son retour est proche. Oh, quel désir devrait nous envahir. Comme nous devrions crier, Seigneur. Seigneur, aie pitié de nous. Taille, ajuste-nous. Fais en sorte qu'au moment de l'assemblage, personne ne doive plus travailler sur l'autre. Le tailler, le déplacer et le faire aller ici et venir. Cela se passe encore maintenant, n'est-ce pas? De toutes les manières. Ce n'est plus nécessaire. Ce dont nous avons besoin, c'est de toute autre chose. Que nous ne nous laissions pas tomber entre les mains des hommes, mais entre les mains de Dieu. Ce n'est pas l'un qui travaille l'autre. Ce n'est pas l'un qui ajuste l'autre, qui fait que l'autre s'adapte à sa convenance. Mais c'est Dieu qui nous fait tous nous adapter à son édifice, être ajusté à son édifice, pour que nous puissions finalement être intégrés là où nous devons être, à notre place. Il est le Seigneur qui construit sa propre maison, qu'il a bâtie. Nous pourrions encore consulter de nouveau plusieurs passages bibliques, y compris 1 Timothée 3, verset 15, à propos de la maison de Dieu, fondement et colonne de la vérité, appui de la vérité, et bien d'autres encore. Aujourd'hui, il s'agissait surtout de nous montrer, à partir des ombres, des images de l'Ancien Testament, que Dieu a un plan pour son peuple. La prochaine étape du plan de Dieu est l'achèvement de l'Église épouse des nations. Et après cela, la parole reviendra en Israël pour nous et pour Dieu. Il s'agit maintenant de faire en sorte que ce qui est prévu pour la suite se produise réellement. Et c'est l'édification de l'Église de Jésus-Christ. Selon la parole de notre Seigneur, je bâtirai mon Église. Il bâtit. Il envoie des apôtres. Il envoie des prophètes. Il envoie sa parole. Il guérit. Il corrige. Il redresse. Il rend convenable. Et il ajuste. C'est à lui et à moi. C'est à toi et à moi de mettre notre volonté dans la volonté de Dieu. De soumettre notre volonté dans la volonté de Dieu. Nous pourrions encore ajouter une autre parole à la chose ici sur laquelle nous ne voulons pas nous étendre. Maintenant, il y a en effet deux « je veux ». D'un côté et de l'autre côté. Nous voulons vouloir ce que Dieu veut. Puissions-nous vraiment ne faire que nous conformer à sa volonté? C'est Lucifer qui a dit plusieurs fois de suite, je veux me rendre sur la montagne des dieux. Je veux m'élever. Je veux m'égaler au très haut. Lisez les quelques je veux prononcés avant sa chute. Et puis il y a le je veux du Nouveau Testament. C'est ce que dit notre Seigneur en tant que fils de l'homme. Pas ce que je veux, mais que ta volonté soit faite. Pas comme je le veux, pas ce que je veux, mais la tienne, qu'elle ait lieu. Et puis il dit dans l'Épître aux Hébreux, dans le rouleau du livre, il est écrit à mon sujet, c'est pour faire ta volonté que je suis venu au Dieu. Et puis il y a cette parole, que c'est par cette volonté que nous avons été sanctifiés une fois pour toutes. Bien-aimés, nous pourrions dresser encore tout un registre de versets bibliques. Il s'agit aujourd'hui et dans l'éternité, il s'agit de la volonté de Dieu. Et c'est dans cette volonté de Dieu que nous devons nous plier, que nous avons à nous plier, si nous voulons faire partie de ce que Dieu a prévu pour ce temps. Je crois que ce qui se passe actuellement est dans la volonté de Dieu. Je crois que Dieu a utilisé le ministère prophétique pour ouvrir nos yeux spirituels afin que nous puissions voir et reconnaître les promesses que Dieu a faites. Point 2, que les mystères qui étaient dans la parole, mais qui étaient restés cachés, soient révélés de la Genèse à l'Apocalypse, chapitre 22. Troisième point, que nous retournions en tant que peuple de Dieu au sein fondement de la foi, que nous soyons nous-mêmes édifiés en un temple spirituel afin que Dieu puisse une fois encore manifester sa gloire sur la terre. Qu'il puisse habiter lui-même et marcher au milieu de nous et parmi nous. Dieu nous a donné sa parole pour que nous puissions la transmettre avec joie. Une nourriture spirituelle au bon moment, au temps convenable, pour la distribuer. Et nous aimerions la transmettre aussi pure qu'elle nous a été laissée. Aussi pure que nous aimerions. Nous aimerions ici la transmettre en tout temps, à savoir cette manne divine cachée que nous pouvons consommer en ce moment en tant que nourriture vraiment spirituelle de la parole révélée de Dieu qui est une lumière dans les ténèbres. C'est ainsi que je voudrais conclure. Pierre l'a en effet exprimé et aussi écrit. D'autant plus fermement se tient maintenant devant nous. Nous possédons la parole prophétique qui brille dans un lieu obscur comme une lumière éclatante. La parole révélée devient une lumière. Et c'est dans cette lumière que nous voyons ce qui est juste devant Dieu. Si la parole n'est pas révélée par le Saint-Esprit, les hommes l'interprètent dans toutes les directions et elle reste obscure. Mais lorsqu'elle est révélée par le Saint-Esprit, elle devient vivante, puissante, efficace, plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Alors elle fait passer jusqu'à ce qu'elle sépare l'âme et l'esprit, la moelle et les os. Et alors nous récolterons les fruits que Dieu a déjà prévus pour nous. Car nous ne pourrions pas les produire à moins qu'ils ne les produisent en nous par grâce. On pourrait encore dire beaucoup de choses. Que Dieu bénisse ses paroles sur nous tous, en nous tous, que nous les prenions vraiment à cœur, que nous comprenions à quel point l'heure est grave dans laquelle nous sommes. S'il vous plaît, ne faites pas d'amalgame, de mélange, de confusion. Vous l'avez vu. Lisez-le dans Esdras, dans Néhémie, ceux qui se sont mélangés ont été chassés. Au moment de la reconstruction du temple, tous ceux qui s'étaient mélangés ont été chassés. Il n'y a plus de mélange. Le temps est révolu. Dieu nous a arrachés à tout mélange, nous en a retirés afin de pouvoir produire quelque chose de nouveau par grâce. En nous, sur nous, et si c'est sa volonté finalement, même seulement ensuite par nous, à la gloire et à la louange de son saint nom. Amen. Levons-nous et adorons le Seigneur ensemble. Celui qui vient à moi, je ne le rejetterai pas. Oui, c'est exclamé, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Je vous donnerai du repos pour vos âmes. Se reposer en Dieu. Se reposer dans les bras de mon Seigneur. Il y a un repos présent pour le peuple de Dieu. Dans le lieu saint, sur le sol saint de Dieu. Comme au commencement, comme maintenant, comme au commencement, maintenant aussi à la fin. La même construction, le même édifice, les mêmes matériaux, les mêmes dimensions et la même échelle, la même mesure. Tout comme au début, tout comme maintenant, tout comme au début, c'est la même chose aujourd'hui encore, maintenant, à la fin. Le Seigneur nous a donné le message de la restitution, de la restauration par grâce. Ne devrait-il pas aussi nous offrir la restauration elle-même? Lui qui a suscité en nous une espérance légitime et qui produit la foi par sa parole de promesse et par le Saint-Esprit, en nous ne devrait-il pas ensuite l'accomplir? Il est capable, il le fera, que son nom soit loué maintenant et éternellement. Amen.